Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons le plaisir de vous présenter l'orateur du jour, le pasteur Roland Dallot, qui nous exhorte à garder la foi en Dieu. Il nous partage un message édifiant sur la tunique de l'accomplissement.
Je vais répéter Genèse 37, versets 3 à 4, versets 23 et puis versets 31 à 33. Ça, c'est la première portion. La deuxième, Genèse 39, versets 16 à 20. Genèse 39, versets 16 à 20. Et puis enfin, nous lirons Genèse 41, versets 14, puis versets 42 à 44. 41, versets 14, et puis versets 42 à 44. Alors, je fais la toute première lecture. Genèse 37, versets 3 à 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 31, ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans les sangs, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée, Joseph a été mis en pièces. » Genèse 39, verset 16 jusqu'au verset 20. Et elle posa, il s'agit de la femme de Potiphar, les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître fut enflammé de colère. » Il prit Joseph et les mis dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et enfin, Genèse 41, verset 14 d'abord, Pharaon fit appeler Joseph, on les fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon, verset 42 jusqu'au verset 44. Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. Il les revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. » Amen. Cet après-midi, partons de ces trois textes qui au fait nous... Vous et moi, nous connaissons Joseph. Et les thèmes que Dieu m'a mis à cœur d'aborder en ces jours, c'est Joseph, une histoire de tunique. Joseph, une histoire de tunique. Pourquoi ce titre? En étudiant la vie de Joseph, ce jeune homme, on se rend compte que l'habillement a occupé une grande place dans sa marche, dans sa vie. Et on voit plusieurs fois les mots tunique, les mots habit revenir. Et on voit plus d'une fois Joseph porter un habit. On voit Joseph être dépouillé d'un habit. On voit même les habits quelquefois être utilisés comme étant les preuves. Et en lisant ses écrits et puis surtout en étudiant sa vie, on se rend compte que l'habillement, comme je l'ai dit, a occupé une grande place. Et par rapport aux tuniques de Joseph, j'aimerais dire un certain nombre de choses avant d'aller plus loin. La toute première, c'est que Joseph a, tout au long de sa vie, porté plusieurs tuniques. Des tuniques différentes, avec des contenus différents, avec des significations différentes. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que certaines de ces tuniques lui ont attiré les bonheurs. L'ont élevé à ses propres yeux et aux yeux d'autres personnes. Mais d'autres tuniques l'ont abaissé. D'autres tuniques lui ont fait mal. Troisième des choses, c'est que certains des tuniques, quand ils les portaient, ils donnaient envie. Et les gens pouvaient envier, Joseph pouvait même envier d'avoir les tuniques qu'il avait. Mais il y a certaines autres tuniques, quand il les portait, c'était pas enviable. Quatrième des choses que j'aimerais dire, c'est que certaines tuniques, il les a portées parce qu'il a souhaité, il a rêvé les porter. Mais d'autres, il n'a pas voulu les porter, les circonstances, les temps, et même les mauvais cœurs des hommes lui ont imposé cette tunique. Cinquième et avant-dernière des choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est que certaines tuniques lui ont été arrachées par les hommes, parce que les hommes avaient un certain pouvoir. Mais il y a des tuniques, quand Dieu les lui a données, rien ni personne ne pouvait les lui arracher, parce que c'est Dieu qui était derrière. Et là, j'aimerais déjà dire, ce que Dieu te donne, rien ni personne ne peut t'enlever. C'est pour ça que j'aime quand la Bible dit, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Quand la Bible dit qui sera contre nous, la Bible ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. La Bible veut dire plutôt qu'il n'y aura aucune adversité victorieuse. Personne ne va essayer de vous combattre jusqu'à vous plier. Vous serez impliable parce que vous avez un partenaire invisible mais présent. Et puis enfin, sixième chose par rapport aux tuniques qu'il a eu à porter, c'est que certains lui ont servi positivement et d'autres lui ont servi négativement. Il est possible qu'en ces jours, quelqu'un d'entre nous soit en train de porter l'une ou l'autre des tuniques que Joseph avait eu à porter. La toute première tunique, on en verra trois, il y a cinq tuniques que Joseph a eu à porter, mais nous en verrons avec la grâce de Dieu deux ou trois selon quel temps on va nous permettre. La première tunique qu'il a eu à porter, c'est la tunique de la faveur. La tunique de la faveur. Et nous voyons cela dans Genèse 37, quand la Bible dit, son père l'avait eu à un certain âge, et il est même dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans la vieillesse, et la Bible dit, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique de plusieurs couleurs, remarquez une chose, Joseph ne l'avait pas demandé. Il n'a même pas milité pour l'avoir. Mais le problème avec la tunique qu'on avait donnée à Joseph, c'est que normalement, ce n'était pas une tunique prévue pour lui. La tunique de plusieurs couleurs en Israël était toujours prévue pour le fils aîné. Et la signification voulait dire, je te donne cela pour dire, après moi c'est toi. Et cette tunique donnait un poids à quelqu'un aux yeux de toute la famille. Et même déjà du vivant de papa, on était obligé de respecter cette personne. Certains commentateurs disent même, celui qui portait cette tunique, celui qui se servait après papa. Vous savez, dans nos familles, surtout africaines, les meilleurs morceaux sont pour papa. Et celui qui portait cette tunique, c'est celui qui pouvait, quand papa s'est servi, de le faire. Et étonnant, Joseph, plutôt Jacob, a commencé à avoir des enfants. Ruben, le plus aîné, et le plus âgé, et puis d'autres. Ruben devait être étonné quand il voyait ses autres amis qui étaient aînés dans leur famille. Quand ils sortaient, ils avaient leur tunique de plusieurs couleurs. Et les amis demandaient à Ruben, mais finalement, toi, ton papa n'a pas encore décidé. Il dit, j'arrive pas à comprendre. Il fait rien. Et le comble, c'est un jour, un des fils, parmi les moins âgés, étonnement, on le voit sortir de sa case avec sa petite taille, avec la tunique de plusieurs couleurs. Je m'imagine Ruben a dû dire, hé, petit Joseph, où tu as eu ça? Toi, tu n'as pas le droit de porter ça. Comme des fois, sur les chemins de la vie, les gens essaient de nous combattre pour des choses pour lesquelles nous n'avons rien cherché. Chez moi, à Kinshasa, on dit, non, ça m'oui. Donc, on me tue pour quelque chose pour lequel je n'ai rien fait. Pourquoi tu essaies de me combattre pour une tunique? Va demander à papa quels sont les critères qui l'ont poussé à me donner la tunique. Aide-moi à dire à ton voisin, ne me tue pas pour la tunique. Dis-lui encore, je ne l'ai pas cherché. Dis-lui, on me l'a donné. Combien de fois les gens veulent nous détruire pour des choses pour lesquelles nous n'avons rien fait? Pourquoi ils parlent plusieurs langues comme ça? Pourquoi les responsabilités à l'église, on ne donne que je n'ai rien fait? Tu vas me tuer pour rien. Un frère me disait, quand je vois un autre frère, j'ai l'impression que c'est lui qui régule comme un policier de circulation les bénédictions. Si ce frère est là, nous sommes derrière, quand les bénédictions viennent, il fait simplement ça. L'ange fait simplement, allez-y par là. Et quand les bénédictions veulent passer là où nous sommes, il dit, non, 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 continuez comme ça. Sens unique, ça va envers quelqu'un. Mais c'est Dieu qui décide. La Bible dit, il donne à celui qu'il veut. Et Joseph a eu cette tunique. Et comme je le disais, cette tunique la distinguait. Elle avait quelques caractéristiques, la tunique de la faveur. La première caractéristique, c'est qu'elle ne lui était pas destinée. Elle était destinée premièrement aux enfants aînés. Et comme une loi qui est cassée, on donne la tunique à quelqu'un qui n'aurait pas dû l'avoir. Deuxième caractéristique de cette tunique de la faveur que Joseph a eue, elle était le fruit du choix de Dieu. Rien ne les qualifiait pour avoir ses privilèges. Il avait plusieurs défauts. Il y a deux défauts qui ressortent en étudiant la vie de Joseph au début. Premièrement, c'était un rapporteur. Genèse chapitre 37, verset 3, il dit, tout ce que ses frères disaient en coulisses, il allait les rapporter à son père. Le but, c'était quoi? C'est faire aimer de son père. Malheur à toi si tu étais à côté de Joseph. J'ai entendu l'une de mes filles dire un jour, la tête de papa, c'est comme l'aéroport, hein? Il n'y a pas tellement de cheveux que les avions peuvent atterrir. Mais malheur à vous, quand vous parlez entre vous comme ça, Joseph ne disait rien. Mais seulement vous êtes étonnés après, il appelle et dit, hey, Manu, qui a dit que ma tête est comme l'aéroport? Ah, papa! Pourquoi? Parce qu'il y avait un Joseph. Et Joseph, c'est David qui dit rien, mais qui capte tout et qui vient tout rapporter. Les frères étaient étonnés, mais ces choses, quand on les disait, on était entraînés. Comment papa en a parlé avec détail? Parce qu'il y avait un Joseph. Le but, c'était quoi? Que l'on puisse m'aimer. Mais c'est Dieu qui décide de dire, la tunique de plusieurs couleurs ira chez lui. Deuxième grand défaut que Joseph avait, il manquait de sagesse. La sagesse, c'est la connaissance, mais bien appliquée aux choses de la vie. Quand quelqu'un est sage, cela se fait voir par sa façon d'agir, sa façon de réagir, mais surtout par sa façon de parler. Mais Joseph, il manquait de sagesse. Genèse chapitre 37, verset 6, puis verset 9 à 10, nous montre combien il manquait de sagesse. Déjà, ses frères ne l'aimaient pas. Mais en plus, la Bible dit, chaque fois qu'il faisait un songe, il vient les rapporter à son père. Et il choisit un moment où tout le monde est là. Il sait déjà qu'on ne l'aime pas. Il vient dire, papa, mais moi c'est bizarre. Je fais un rêve. Et dans ces rêves, il y avait les soleils, la lune et les étoiles qui s'accroupissaient devant moi. La Bible dit, ses frères les prirent en haine. Et le verset que c'est, il fit encore un rêve. J'imagine, ce matin, il s'est réveillé, mais moi, j'arrive pas à expliquer. J'ai encore rêvé. Tu as rêvé quoi? Non, j'ai vu que nous tous, nous étions comme des gerbes. Et vous savez quoi? Vos gerbes se sont agenouillées. Est-ce que vous pensez que les autres vont dire Alléluia? Seigneur, merci, tu as décidé que nos gerbes s'agenouillent. Ah, souvent, nous pensons que tout le monde nous aime. Il manque de sagesse. Mais Dieu décide que ça sera lui qui aura la tenue. Combien de fois il nous arrive de dire, mais ce qu'on a donné à l'autre, moi, je le méritais. Qu'a-t-il de plus pour qu'on lui donne? Je ne sais pas si c'est le cas ici. Un jour, je ne célébrais pas un mariage à Kinshasa, c'était à l'église de la Borne en 2005. Celui qui était en train de célébrer était devant, et puis moi j'étais un peu dans la masse. Et puis la mariée était passée, elle n'avait pas porté une robe, c'est une jupe blanche, quelque chose de dessus en blanc, très bien. Et puis quand elle passait, j'ai entendu deux filles qui étaient derrière, qui ont dit en lingala, je vais essayer de traduire, dit « Ah, mais balé, ma maman n'a pas cité ». C'est-à-dire les hommes, vraiment, est-ce qu'ils ne voient pas des femmes à épouser? Une autre a dit, moi je suis un embouteillage de la beauté, on ne voit rien. Mais on va aller épouser cette femme qui a des jambes comme des joueurs de rugby. je me suis retourné, j'ai dit à la dame, qui sait si ce ne sont pas ces jambes des joueuses de rugby qui ont attiré cet homme? Mais elle a dit, moi je suis un embouteillage. Tout est parfait chez moi. Ah, il arrive des fois, Dieu donne certaines choses à d'autres personnes. On se demande, pourquoi lui? J'ai connu un pasteur à Kinshasa. Il a une très grande église. Il a un ministère fantastique. Mais il a une faiblesse. Et elle est petite, la faiblesse, mais elle est gravissime. ceux qui le connaissent l'appellent assassin du français. Lui, quand il prêche, les articles, je l'ai entendu dire, il faut passer par le baptême. Un jour, je l'ai vu chasser des démons. Il a dit, petit démon, au nom de Jésus, sors. Et le plus étonnant, c'est que les démons ont obéi. Je pensais que les démons allaient résister en disant, non, l'accord n'était pas parfait. Pour montrer que la vie n'est pas dans les Français, la vie est dans l'esprit. Certaines personnes, quand Dieu fait des choix, c'est comme s'ils veulent questionner Dieu. Seigneur, explique-moi quels sont les critères que tu as utilisés pour faire les choix. Mais ces prédications-là que le pasteur bienvenu fait, moi aussi je peux les faire. Quand tu donnes les micros, passe ici. Tu commences à marcher, m'a dit Alléluia! Alléluia! Dieu a des critères qui nous échappent. Il arrive des fois, Dieu choisit quelqu'un, non pas sur base de ce qu'il est aujourd'hui, mais de ce qu'il sait qu'il va devenir. Parce que Dieu voit souvent les produits finis dans la matière première. Et quand nous voyons la matière première, Dieu voit déjà les produits finis. Il sait où il va amener la personne et ce qu'il va faire avec. Seigneur, fais ce que tu veux faire. Et parce que Dieu connaissait ce qui allait sortir de Joseph, il a fait le choix. Quels sont les critères? Mais troisième des choses que je m'aurais dit par rapport à cette tunique de faveur, c'est que cette tunique était simplement prophétique. C'est-à-dire, elle était l'ombre des choses à venir. Cette tunique, quand elle était donnée, elle voulait dire à Joseph, voilà ce que tu as appelé à devenir. Tu ne l'es pas encore, mais tu le deviendras. Dieu voulait montrer à Joseph où il amène. Dieu voulait transmettre un message à Joseph, tu es spécial, tu es particulier, Dieu fera des choses avec toi. J'aimerais que tu sois conscient de cela. À combien de fois nous méprisons la prophétie et la parole prophétique. Une prophétie en général nous est donnée aujourd'hui et les effets se voient demain. Il arrive des fois, nous croyons que Dieu prophétise à 10 heures et l'accomplissement c'est à 13 heures. Il arrive que ça se passe aussi rapidement, mais quelquefois ça traîne. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, la Bible nous montre l'une des manières de gérer la prophétie. Elle dit, la prophétie est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que la lumière vienne. Mais j'aime quand l'apôtre dit, nous devons la tenir comme étant une chose certaine. Certaines. J'aime quand des prophéties des vraies nous sont données. J'aime souvent relater cette petite histoire. J'arrive aux États-Unis en 2007 au mois d'avril. Je suis à table en train de manger avec des amis dans la banlieue de Chicago. Et puis une dame vient visiter la famille et à peine j'avais demandé les selles, cette femme m'a tendu les selles et elle a commencé à parler de la part du Seigneur. Je voulais dire, j'aime quand les gens exercent les dons spirituels dans la maturité. Certaines personnes, quand l'Esprit de Dieu les saisit, doivent faire des dégâts tout autour. Moi Dieu! Oh, atcha! J'étais dans une église, une maman devait parler de la part du Seigneur. Écoutez comment. Na. Quelqu'un a dit, Dieu bégaye maintenant. Pourquoi trop d'émotions? Mais cette dame a parlé calmement. Ainsi parle l'Éternel. Elle m'a d'abord rappelé, Roland, c'est ton nom, le nom de ton père, le nom de ta mère. Tu habitais tel, noire américaine, tu habitais tel quartier à l'âge de 10 ans, à Bandal, à Kinshasa. On t'appelait tel nom en football, j'ai regardé là, j'ai. Voilà ce par quoi tu es en train de passer. Deux choses que Dieu m'a dit de te dire. Tout ceci est voulu par Dieu. Mais ne fais rien avant décembre et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Et puis elle m'a donné une dernière parole. Je me souviens quand je l'ai entendue, ça a été difficile. Elle m'a dit, Dieu me dit de te dire, entre novembre et décembre, fais un jeûne de 33 jours. Prends seulement des légumes et du jus le soir. De nature, je suis un grand tireur d'élite. Moi, c'est les... Ou Gali. Soit dit en passant, ne les dites pas aux absents. Quelquefois, le matin, je saute le petit déjeuner occidental pour prendre l'air. Et j'ai calculé, en général, je prends 3 repas le jour, matin, midi, soir. Et j'ai fait un calcul mental, 33 fois 3. Chez les Français, ils diront 99 repas à sauter. Et Dieu dit, quitte ton lit, passe la nuit sur les nattes et tu verras ce que Dieu va faire. La plupart de tes amis, ceux de ta génération qui ont commencé l'église avec toi, ils ont commencé avec presque rien en main. Mais si tu le fais, tu verras ce que Dieu va faire. Et ce que j'aime, je rentre des États-Unis, j'en parle avec mon épouse, je dis, chérie, voilà le message qu'on m'a donné. Elle a dit, tu ne vas pas le faire seul, je vais jeûner avec toi. Ah, c'est merveilleux, comme j'aime dire, quand un aigle spirituel épouse aussi un aigle. Les deux vont dans les hauteurs les plus élevées. Le plus triste, c'est quand un aigle épouse une canne. Quand l'aigle dit, on va voler la canne, il dit, restons. Hein? Et l'aigle est obligé de faire plaisir à la canne. Et ils resteront, ils vont manquer de choses. Et elle est restée avec moi. J'ai perdu 5 kilos. Je me souviens des prières que je faisais, que je ne finissais pas. Seigneur, je te rends grâce. Ah, là, là. C'était dur. Mais à peine j'ai fini le 33e jour, j'ai appelé cette dame, on en parlait, dit, Dieu me dit de te dire, dans les 15 jours, tu verras, il te donnera quelque chose entre les mains qui te permettra de commencer l'œuvre de Dieu. Ceux de ma génération qui ont commencé l'œuvre de Dieu, c'est lui à qui l'Église a beaucoup donné. L'Église lui a donné $500 seulement. La plupart ont eu entre 200 et 300. Et quelques jours après que j'ai reçu ce message, j'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil, je regarde, c'est un numéro que je ne connais pas. Je n'ai jamais oublié le nom du monsieur, il s'appelle Lewis. Oui, allô? C'est pasteur Roland Dallo? J'ai dit oui. Et vous, monsieur Lewis? J'ai dit, je ne connais pas. Il dit, vous avez la possibilité de me connaître. Vous avez la possibilité, dans moins d'une heure, de vous retrouver dans tel restaurant à Kinshasa pour qu'on puisse échanger. Je dis, sans problème. Je ne connaissais pas, j'arrive dans ce restaurant, je vois au fond un monsieur qui me fait signe de la main. On parle de tout et de rien, mais il dit, cela fait 6 ans, je t'ai su à la télé. Qu'est-ce que le message que Dieu donne par toi m'est béni. Et j'ai appris tout ce par quoi tu es en train de passer. Mais depuis 3 jours, Dieu me dit de contribuer à l'œuvre que tu vas commencer. Je l'ai simplement vu faire sortir un chéquier. Il a placé, il a pris un stylo. Il a écrit d'abord 4, puis il a écrit 5, et puis il a mis un point. Il le faisait calmement, du suspense créé. Il a mis un premier 0, un deuxième 0, et puis un troisième. C'est là où mon cœur a commencé à battre à la chamade. On pouvait voir les battements à 1 kilomètre. Parce que dans mon cœur, je me disais, qu'est-ce qu'il va écrire? FC pour dire franc congolais? Où il va mettre un S barré comme ça. J'ai simplement vu, il a mis un S et puis il a barré. Quand il m'a donné, de nature, je bégayais pas. J'ai dit, vous n'êtes pas sûr que vous vous êtes trompé sur le montant? Il a demandé, combien tu as vu? J'ai dit, $45,000. Il dit, exactement, c'est ce que je voulais. J'ai fait le flegmatique. Mais dans mon cœur, ça bouillonnait. J'ai dit au monsieur, vous permettez que j'aille au petit coin? Je suis allé aux toilettes, j'ai fermé. Et j'ai appelé mon épouse, j'ai dit, chérie, le jeûne de 33 jours, ça paye. Ça paye. Elle m'a dit, quoi? J'ai dit, réjouis-toi. C'est pourquoi Habacuc dit dans Habacuc 2, verset 3, la prophétie, il faut l'écrire. Dieu n'a jamais établi la prophétie pour qu'elle soit mémorisée. La prophétie, écris-la. Deuxième des choses concernant la prophétie, qu'on la lise couramment. Quand Dieu t'a donné une parole, il faut non seulement l'écrire, mais avoir le temps de lire. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais troisième chose concernant la prophétie, c'est qu'elle a un temps fixé. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu entends les bruits de l'horloge, ça t'amène vers un rendez-vous, vers quelque chose que Dieu a prévu d'avance. Mais quatrième et dernière chose que j'aime par rapport à la prophétie, elle dit, si elle tarde, attends-la. Elle demande une attente de notre part. Elle s'accomplira certainement. Et cette tunique, elle était prophétique. C'était simplement pour dire à Joseph, je vais t'amener quelque part. Au-delà de la tunique, Dieu a associé ces deux visions. J'ai prié, Seigneur, si en ces jours, il y a quelqu'un à qui tu as donné une parole, que cette personne s'attache à toi. S'attache à ce que tu lui as dit. Et deux dernières choses concernant cette tunique de la faveur, avant que je ne touche la deuxième, c'est que elle a été la première des choses arrachée par ses frères dès qu'ils ont voulu les vendre. Pour simplement montrer combien de gens envient des choses que nous avons. Parce que la Bible dit, quand ils l'ont vu venir, ils ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez et tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Mais la Bible dit, dès qu'il arriva, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils lui ont arraché la tunique. C'est ce qu'ils visaient. En lui arrachant la tunique, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Nous te rendons ordinaire. Nous t'enlèvons ce qui te distingue. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les gens peuvent t'arracher la tunique, mais ne peuvent pas t'arracher la faveur de Dieu. Car la faveur de Dieu produit d'autres tuniques. Si les gens veulent t'arracher la tunique, laisse-les prendre. Mais la faveur, aucun homme ne peut nous l'arracher. Aucun homme, aucun homme. Et dernière chose concernant cette tunique, c'est qu'elle a été utilisée aussi comme une fausse preuve. Parce que la Bible dit dans Genèse 37, 31 à 33, ses frères ont pris la vraie tunique, mais ont associé au faux sang. Ils ont tué un bouc, ils ont mis sur les sangs. Ils ont pris plutôt les sangs qu'ils ont mis sur la tunique et ils ont amené au père en disant, voici la tunique de ton fils et son sang. Dommage, il n'y avait pas de test ADN et toute autre expertise à l'époque. Papa aurait pu vérifier. Et le père a regardé et il s'est mis à pleurer. Et Joseph était dépouillé de sa tunique. Il pensait qu'il avait perdu, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose que tu as perdu, tu vas la retrouver. Mais la deuxième tunique que Joseph a eue à vivre, c'est la tunique de la honte. La tunique de la honte. Et ça, il a vécu ça dans la maison de Potiphar. Et nous l'avons lu dans Genèse au chapitre 39. Ah, combien j'ai difficile chaque fois à lire ces passages. Je trouve cette femme, elle devait être mauvaise. 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 Genèse 39, la Bible dit au verset 16, elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors il lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Cette femme qui a tenté Joseph pour l'amener à vivre une vie indécente, et Joseph a résisté, et alors que Joseph voulait s'enfuir, la Bible dit que son manteau, sa tunique est tombée. Et cette femme est restée avec la tunique. Elle ne bougeait pas. Certains disent qu'elle a dû passer 3 à 4 heures. Et finalement, quand son mari arrive, elle change le scénario. Elle utilise cette tunique comme étant la preuve du mauvais comportement de Joseph. Ah, il est possible qu'en ces jours, qu'il y ait quelqu'un qui est en train de vivre la honte. Tu as raison, mais les gens t'imposent un tort. Ah, j'aimerais dire, souvent dans la maison de Potiphar, il arrive qu'on écoute plus la femme de Potiphar que Joseph. Combien de fois, quand la femme de Potiphar parle, on ne les écoute pas. Elle verse des larmes, elle dit, il a voulu faire ceci. Combien c'est dur d'avoir raison et qu'on vous colle un tort. Vous savez que vous n'êtes pas ce que les autres disent. Vous savez que vous n'êtes pas cela. J'ai une fois prêché à Kinshasa en criant, en menaçant certaines personnes. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Chez nous en Afrique, peut-être qu'ils l'ont dit, que tu es nerveux, ça passe encore. Léger dans les comportements, ça passe encore. Mais qu'on t'impute la sorcellerie. Vous savez, la réputation d'un homme, c'est toute sa vie. Ah non, j'ai rêvé que telle maman était en train de marcher à reculons, et elle avait 3 jambes. Et moi, dans les enseignements qu'on m'a donné, quand quelqu'un marche à reculons, ça veut dire que... Et désormais, on colle une réputation à quelqu'un. Plaise à Dieu que ce que tu as vu soit vrai. Et si ce n'est pas vrai, tu détruis toute une vie. Joseph, il va en prison pour quelque chose qu'il n'a pas eu à faire. Sa tunique est présentée comme une preuve contre lui. Et cette femme qui l'accuse, c'est elle-même que tout ce qu'elle dit est faux. Et bizarrement, Joseph s'éteint. Il dit rien du tout. Il subit la honte. C'est un paria. Combien de fois Dieu décide que nous passions par les chemins de la honte? Quelquefois, nous n'en voulons pas, mais c'est lui qui décide. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 10, parlant de ce que Christ allait connaître, le prophète dira, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Vous savez, il y a des chemins qui plaisent à Dieu, mais qui ne nous plaisent pas. Où Dieu nous laisse passer par ces chemins. Joseph pouvait se dire, mais Seigneur, tu m'as montré de telles choses. Pourquoi tu laisses qu'on m'accuse faussement? Ah, les quelques années que j'ai dans le Seigneur, j'en ai 28 et 23 comme ministre de Dieu. Que des choses que quelquefois j'ai eu à connaître, je ne comprends pas pourquoi. La Bible dit, les choses cachées sont pour Dieu et celles qui sont révélées sont à nous. Dans Jean chapitre 21, verset 18, Christ dira à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais il dit, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera. Mais j'aime surtout ce qu'il dit à la fin. Et il t'amènera là où tu ne voudras pas. Combien de fois Dieu laisse que nous passions par des chemins que nous ne voulons pas. Je ne veux pas de ces chemins. Mais Dieu laisse. Quand tu vois que Dieu permet que tu passes par un chemin, tu crains Dieu, mais des fausses choses sont dites, sont créées sur toi, apprends à te taire. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quelqu'un a dit, Dieu est capable d'écrire droit, mais avec des lignes courbes. Dieu est capable de t'amener au nord, mais passant par le sud. Mais quelquefois, tu es tellement intelligent, quand il t'amène, tu dis, Seigneur, le sud, c'est là. Lui, il dit, non, allons-y. Il sait où il t'amène. En regardant en arrière, je vois certaines portes que Dieu a laissées, que ça se ferme sur le chemin de ma vie. Sur les champs, je me suis plaint. Mais avec les années, j'ai appris à lui dire merci. Parce que chaque fois qu'une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre encore de meilleure. Ah, j'ai appris, même quand on m'a fait porter le manteau de la honte, à laisser Dieu tout faire. Et par rapport au manteau de la honte, avant de toucher le dernier manteau, j'aimerais dire trois choses. La première, c'est que dans la vie, nous ne devons jamais être surpris par les hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Connaissez-vous l'histoire de cet empereur romain qui, alors que les gens l'ont attaqué pour les tuer, il a été étonné de constater parmi les bourreaux, même son fils, il s'est écrié, même toi, mon fils. Une phrase qui est devenue célèbre, surtout pour ceux qui ont fait les humanités latines. Quelquefois, notre souffrance est liée au degré d'attachement. Prédicateur, tu veux dire qu'on ne s'attache pas? J'ai dit, attachons-nous, mais attachons-nous plus à Dieu. Dans Psaume 55, au verset 13 à 14, un homme souffre, mais sa souffrance, c'est qu'elle a été trahie. Écoutez ce que la personne dit. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai. C'est toi que j'estimais, mon égal, mon confident et mon ami. J'ai appris à ne plus jamais être surpris. Ah, je suis passé par des moments très, très difficiles en 2007. Et je me souviens, je pensais avoir un cœur solide. Jusqu'à ce qu'on vienne me rapporter certaines choses. Tu sais, tel a dit ça. J'ai dit non, tout le monde, mais pas lui. Non, tel a dit ça de toi. Mais il venait ici. Chaque fois qu'il me demandait quelque chose. Ouf. Ah, je me suis rendu compte que j'ai un cœur naturel. Un jour, je suis même allé voir un médecin. J'ai dit, je commence à avoir des douleurs qui partent là et qui sortent. Il dit, monsieur, tu fais de la gastrite. Je pensais être costaud. Jusqu'à ce que je me rende compte que je ne le suis pas tellement. Deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que nous devons savoir qu'il y aura des moments où seul Dieu saura que nous ne sommes pas ce que les autres pensent et disent. Je lisais ce matin Jean chapitre 10, verset 20 et puis verset 31. La Bible dit, plusieurs d'entre eux disaient de Jésus, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Jésus était fort, hein? On lui prête les démons en face comme ça. Et le verset 31 dit qu'on voulait les lapider. Et on veut lui dire, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Nous voulons te lapider parce que toi qui es homme, tu te fais passer pour Dieu. Troisième et dernière chose avant de toucher la dernière tunique, c'est que quand ce temps arrive où nous portons la tunique de la honte, il y a une chose à éviter, mais une chose à essayer de faire. La première des choses à éviter, c'est laisser l'amertume et la haine habiter notre cœur. Car l'amertume et la haine, quand ça rentre dans notre cœur, c'est nous que ça fait souffrir. La personne qui, à la base, vit quelquefois, calmement, tu la vois passer, tu sens... Ça crée un problème psychique qui deviendra même un problème physique, qui va même peut-être écourter ta vie. Ne pas laisser l'amertume. C'est pas facile, c'est plus facile à prêcher qu'à vivre. Mais la deuxième des choses, c'est s'en remettre à Dieu. S'en remettre à Dieu. Il a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et quand on s'en remet à Dieu, je me suis toujours rendu compte, il sait utiliser un paramètre important pour renverser la tendance, le temps. Le temps. Le temps est un réparateur. Le temps est un correcteur. J'ai vu le temps changer des choses. Il n'y a pas mieux que le temps pour corriger les réputations. Il n'y a pas mieux que le temps pour remettre les pendules à l'heure. Et ce qui m'étonne, même les maîtres qui a accompli les grandes choses de Jésus-Christ, il s'en est remis au temps. Vous savez que Christ, quand il a été pendu au bois, on l'a pendu parce qu'on disait qu'il était un imposteur. Quelqu'un qui s'est fait passer pour le Fils de Dieu. Mais j'aime quand nous lisons Zacharie au chapitre 12, au verset 10. La Bible parle d'une scène qui se passera à la fin de l'histoire de l'humanité. Israël sera attaqué de toutes parts et même ses alliés les plus forts des États-Unis vont l'abandonner. La Bible dit, ils crieront vers les Shiloh. Ils demanderont, Shiloh vient intervenir. Et la Bible dit, qui ils verront qui viendra intervenir, c'est lui qu'ils ont transpercé. Et la Bible dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils aîné. Ils diront donc, celui que nous avons transpercé était le Fils de Dieu. Même celui, le Fils de Dieu qui a créé les temps, il s'en remet au temps pour corriger certaines choses. Laisse les gens t'accuser. Dieu va se servir du temps pour remettre les pendules à l'heure. Alors j'aimerais en quelques minutes mentionner la troisième tunique et prier pour quelques personnes. La troisième tunique, c'est la tunique de l'accomplissement. La tunique de l'accomplissement, nous l'envoyons dans Genèse 41. Waouh! Quand Joseph pense que tout est fini, quand il a perdu l'espérance, quand il commence même à douter de ce que la tunique prophétique lui avait dit, quand il est en prison, j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Dieu aime même agir quand nous pensons que c'est totalement fini. Il intervient et il signe son intervention. Pour que toi, moi, on puisse dire ça, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Joseph est en prison, il a tout oublié. Mais le Dieu qui lui avait parlé n'a rien oublié. Qu'il est dur de s'attendre à Dieu après avoir reçu ses promesses et voir l'accomplissement tarder. Mais quand l'accomplissement arrive, ça apporte un bonheur, une joie et un sentiment inexplicable. L'accomplissement de ce que Dieu a dit vous rend heureux, renforce votre confiance en Dieu. J'aime quand Siméon s'avance au temple et la Bible dit quand il touche l'enfant Jésus, il dit « Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. » Combien c'est merveilleux ces instants où ce que Dieu a dit s'accomplit. Et alors que Joseph était en prison, il avait tout oublié, il ne savait pas que Dieu était en train de travailler pour lui. Laissez-moi vous dire cette chose avant de mentionner trois ou quatre choses et de finir, c'est que Dieu peut travailler pour nous sans nous. J'aimerais le répéter, Dieu peut travailler pour nous sans nous, sans nous aviser. Alors que Joseph est en prison, Dieu a décidé ce jour-là que ce qu'il lui avait montré dans sa jeunesse va s'accomplir. Dieu fait deux choses extraordinaires. La première, il fait rêver les pharaons. La deuxième des choses, il empêche ses conseillers qui habituellement donnaient l'explication des songes. Mais Dieu les rend incompétents. Vous savez, quand Dieu vous pouvez vous confier quelque chose, il va vous les garder pour vous. Il empêche aux magiciens d'expliquer. Mais il fait une troisième chose qui est comme une forme d'appendice. Il rappelle à l'échanson. Et l'échanson se souvient. Vous savez, Joseph n'avait pas envoyé un mail à l'échanson. Souviens-toi de moi. C'est Dieu qui lui a rappelé. Il ne savait pas que Dieu travaillait pour lui. Et la Bible dit, on est venu le chercher en hâte en prison. Et on l'a amené devant le pharaon. Il pensait peut-être qu'il faisait un aller-retour, mais c'est qu'il ne savait pas que c'était l'accomplissement de tout ce qu'il avait connu depuis sa jeunesse. Seigneur, permets que quelqu'un un jour arrive et qu'il voit l'accomplissement des choses que tu lui as dites et qu'il puisse dire comme les enfants d'Israël, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Quand il termine d'expliquer les songes, les pharaons ont dit, mettez-lui un anneau au doigt et mettez-lui la plus belle des robes. Une robe qu'il va porter durant plus de 50 ans et qui va permettre qu'il puisse gouverner l'Égypte en accomplissant tout ce qu'il a vu dans sa jeunesse. Et par rapport à cette tunique de l'accomplissement, je mentionne ces choses et puis je prie. La toute première, c'est qu'elle nous arrive souvent quand on s'y attend le moins. La tunique de l'accomplissement, elle nous arrive quand on s'y attend le moins. Peut-être que même on l'a oublié. La deuxième des choses, c'est Dieu qui programme sa venue et qui organise les circonstances pour qu'elle arrive. La troisième des choses, c'est que cette tunique, quand elle arrive, elle vous console. Elle vous fait oublier les chemins parcourus. Du reste, quand Joseph a eu son premier fils, il a appelé Manassé pour dire « Dieu m'a fait oublier ma peine ». La troisième des choses, c'est que cette tunique, souvent, mène vos adversaires à devenir vos agents de publicité. Ce que j'aime, c'est que ce sont les mêmes personnes qui avaient fabriqué de fausses preuves pour aller montrer à papa en disant « Voici la tunique de ton fils, Joseph est mort ». Ce sont les mêmes qui sont retournés vers Jacob. S'ils étaient quinois, ils ont dit « Papa, l'aïe. Joseph n'est pas mort. Il vit. » C'est pour cela l'une des prières que je fais. Aucun de mes ennemis ne doit mourir. Même quand j'apprends qu'il est aux soins intensifs, Seigneur, qu'il ne meurt pas. Il doit rester vivant et vivre les contraires de ce qu'il souhaitait pour moi. Eux-mêmes ont dit « Joseph vit ». Et il est devenu quelqu'un en Égypte. Ils ont même amené des chars. Mais aussi, cette tunique de l'accomplissement, elle est accordée à ceux qui aiment servir Dieu et servir les autres. La tunique de l'accomplissement n'est pas donnée à tout le monde. Vous savez, Joseph a eu son rêve accompli en expliquant les rêves de quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à te soucier des problèmes des autres. Et Dieu t'amènera à voir l'accomplissement de ton songe. Je termine avec cette dernière chose, c'est que la tunique de l'accomplissement est un révélateur. La tunique de l'accomplissement est un révélateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la tunique de l'accomplissement révèle ce que nous sommes réellement. Quand nous avons cette position d'accomplissement, quand nous avons cette position où nous atteignons un certain seuil, où nous avons les autres sous nos pieds, nous avons plus que d'autres personnes. Genèse chapitre 50, verset 15 jusqu'au verset 21, nous montre le cœur de Joseph, même quand il était élevé. Leur père est mort et ses frères sont en train de trembler. Maintenant que notre papa est mort, Joseph va sûrement se venger. Papa était notre paratonnerre. Tant que papa était là, il ne pouvait pas se venger. Il pensait que Joseph était comme eux. Mais la Bible dit, Joseph dit, je ne vous ferai aucun mal. Mais j'aime surtout ce que le verset 20 dit. Joseph parla à leur cœur et il les consola. Quand vous atteignez ce seuil de l'élévation, votre vrai caractère se révèle. Mon pasteur, le pasteur Jacques-André Vernon disait, l'élévation révèle ce que nous sommes réellement. Réellement. Il dit, l'élévation amplifie tout ce que nous sommes et des fois que nous ignorons. Il dit, si vous voyez quelqu'un des fois devenir infidèle à sa femme, ce n'est pas qu'il est devenu infidèle. Il était infidèle, mais l'infidélité manquait de moyens. Dans son cœur, il disait, le jour où j'aurai l'argent, toutes les femmes là. Vous voyez quelqu'un devenir orgueilleux, il n'est pas devenu, il était orgueilleux. Mais l'orgueil manquait de moyens pour s'exprimer. La tunique de l'accomplissement révèle qui nous sommes. Réellement. Je sais que demain, Dieu va amener quelqu'un à un niveau où ils verront leurs rêves s'accomplir. Allez-vous rester la même personne, humble, serviable? J'aimerais nous inviter, en ce début d'après-midi, à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer ces trois petits appels et je vais prier rapidement. Le tout premier appel, il y a en ce jour quelqu'un qui qui porte la robe de la faveur, une robe prophétique. Dieu t'a fait porter une robe, mais cette robe ne fait que te dire où tu vas. En même temps que tu la portes, tu vis des choses contraires. Des choses qui, des fois, te font dire, est-ce vraiment Dieu qui est avec moi? Ah, Dieu me dit de dire à quelqu'un en ces jours, ne regarde pas aux circonstances. Pour chanter ces cantiques tout à l'heure en anglais ou en français. And I sing, et je chante, malgré les temps difficiles. Le deuxième appel que j'aimerais lancer, il y a quelqu'un en ces jours qui est en train de porter la tunique de la honte. Ta réputation a été salie par quelqu'un. De la même manière, la femme de Potiphar a présenté des fausses preuves. Quelqu'un a dit des choses qui ne sont pas te concernant. Et cette personne est en position de force et ces choses t'ont fait mal, très mal. Tu as essayé de réagir, mais tu as rendu compte que tes réactions n'ont servi à rien. Et en ces jours, tu veux dire, Seigneur, je m'en remets à toi. Toi seul corrige ma réputation. Le tout dernier appel, celui-là aussi je le lance, mais en prenant deux directions. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de porter la tunique de l'accomplissement. Et là, Dieu me dit de te dire, pourquoi as-tu changé ainsi? Venir à l'église est devenu pour toi un devoir, une corvée, pour faire plaisir à ton mari, pour faire plaisir à ta femme. Tu te souviens autrefois quand tu n'étais rien et n'avais rien, Dieu était tout pour toi. Dieu dans ta vie est devenu comme une forme d'appendice. Ne veux-tu pas en ces jours dire, Seigneur, j'aimerais devenir celle et celui que j'étais autrefois. Pour qui tu étais tout, tu étais la priorité. Mais dans ce troisième appel, je prends la dernière direction. Il y a quelqu'un qui sait que Dieu va l'amener vers l'accomplissement, il va porter cette tunique. Mais quand tu regardes tout autour de toi, tu vois plusieurs que Dieu a fait porter la tunique de l'accomplissement et qui se sont perdus. La Bible parlant d'Ozias dit, l'Éternel le fit prospérer, mais lorsqu'il prospéra, son cœur s'éleva contre lui. La Bible parlant de Salomon dit, les femmes étrangères inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est pourquoi à cette heure, j'aimerais prier aussi pour quelqu'un qui sait que Dieu l'amène quelque part et qui veut dire, Seigneur, quand tu me donneras ce manteau de l'accomplissement, cette tunique, aide-moi à ne pas m'éloigner de toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à l'un de ces appels? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, je porte la tunique de la faveur? Je sais que Dieu m'a choisi. Je sais qu'il a posé son regard sur moi et sa main est sur moi. Je passe peut-être par des chemins difficiles, mais je sais où je vais. Je ne vois pas encore l'horizon, mais je sais qu'il m'amène quelque part. Et je crois que mon aujourd'hui ne restera pas permanent. Parce que mon demain est plus grand que mon aujourd'hui. Et tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je détiens une parole de la part de Dieu. Je sais que j'y arriverai. Deuxième appel. Accusé faussement. Tu portes la honte. Mais tu veux dire, je m'en remets à Dieu. Je ne vais pas laisser la honte amener l'amertume. Mais la troisième, comme je l'ai dit, c'est lui qui veut dire, Seigneur, tu m'as amené à porter la tunique de l'accomplissement, mais je me rends compte que je suis en train de me refroidir. Réchauffe ma relation avec toi. Mais aussi quelqu'un qui veut comme une vaccination en disant, Seigneur, j'ai vu plusieurs à qui tu as donné la tunique et qui se sont éloignés de toi. Je ne veux pas que ce soit mon cas. Alors que les cantiques seront en train de jouer. Quelqu'un qui veut répondre à l'un ou l'autre de ces appels va s'élever rapidement et je prierai pour et avec.